Comment faire pour connaître vraiment tout, tout, tout? Ouvrir toutes les fenêtres, creuser tous les trous, éclairer tous les mystères, tous les secrets de la terre, des montagnes, des rivières et des loups-garous.
La chronique éthique avec Steve Simard.
Mais enfin, pourquoi? Pourquoi?
Aujourd'hui, on va parler de Frankenstein.
Bon, là, présentement, je me suis lancé dans l'œuvre de Mary Shelley. Je me suis dit qu'il fallait quand même que je lise le roman pionnier de science-fiction. Et quand même, une des remarques qui m'a accroché, c'est les liens que je peux faire avec le christianisme, c'est-à-dire Dieu qui crée l'homme, et avec le docteur Frankenstein qui crée sa créature. Mais en tout cas, il y a des liens que je vois que je peux faire avec le roman et la Bible. OK, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que, bon, vous l'avez sûrement vu, vous connaissez sûrement un peu l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a le savant, il y a le docteur, qui décide d'aller au-delà finalement des connaissances, de créer une créature qui fait même 2,5 fois sa grandeur, c'est à peu près 2,50 m, une espèce de monstre gigantesque, vraiment puissant. Il se trouve à jouer un peu avec la chimie, avec un peu toutes les sciences qui à son époque, il réussit finalement de créer la vie, un peu comme on le voit dans les adaptations cinématographiques, ou finalement de le savant fou qui crée sa créature et
It's alive!
Vie. Et puis bon, il en jouit, ok, ça en est vraiment une jouissance parce qu'il a été capable de surpasser finalement toutes les connaissances humaines, puis même de se dépasser lui-même finalement.
En fait, il joue à Dieu finalement.
Oui, enfin ça, puis il crée quelque chose encore plus puissant que lui. Bon.
Mais est-ce qu'il n'y aurait pas nécessairement une métaphore de la création divine, c'est-à-dire que c'est comme si le scientifique était Dieu et puis qui créait l'être humain, qui serait en fait le monstre?
Oui, bon, ok, ça c'est la vision un peu que je m'en fais, ok? Sauf que, déjà là, petite différence. Encore là, les deux, c'est-à-dire que Dieu va créer l'homme à son image, ok, mais c'est quand même une image affaiblie de ce qui est. C'est-à-dire créer quelque chose de moins puissant, mais semblable à lui. Frankenstein, inversement, va créer quelque chose, mais de plus puissant que lui. Aussi, les deux vont quand même s'émerveiller devant leur créature, et puis les deux vont finir par en perdre le contrôle. C'est-à-dire que dans le cas du monstre Frankenstein, finalement il est vraiment béant, il sauve finalement, puis le savant n'a pas de contact avec le monstre. Ça va lui prendre 6 ans finalement avant finalement qu'il le rencontre, puis là, finalement que sa créature lui reparle. Bon, il s'est caché longtemps, puis finalement c'est une créature qu'il a beaucoup observée. C'est-à-dire que quand il a été mis au monde, il s'est sauvé, puis il voyait qu'il était fuite partout aussi. Qui arrivait, les gens avaient peur, les gens le lapidaient, le chassaient. Fait que finalement, c'est quelqu'un finalement qui a appris à vivre seul. Et même, je dirais que c'est vraiment un poids qui pèse sur sa conscience presque constamment. Moi, je vais vous dire, le roman, il est vraiment pavé de culpabilité. Le monstre en tant que tel, lui, ce qu'il trouve fou, et même même le monstre, il connaît aussi la Bible, fait qu'il fait des références bibliques aussi, parce que il s'est sauvé dans les bois, il s'est sauvé un peu partout, puis il va observer les humains de loin pour essayer finalement de comprendre qu'est-ce que c'est. Finalement, il se rend compte qu'au moins, il se sent déchu de son créateur, comme l'homme s'est senti déchu de Dieu, sauf que, il va prendre l'exemple de Satan. Satan, ok, oui, il a été déchu de Dieu, mais au moins Satan, lui, il a ses serviteurs, lui, il a rien, il est tout seul. Finalement, il se considère encore plus bas, finalement, que Satan. C'est vraiment ça qui pèse beaucoup sur ses épaules.
Mais est-ce qu'il y a une morale à ce roman-là? Est-ce que, par exemple, la morale, ce serait d'accepter les gens selon leurs différences?
Hey, crime, la morale là-dedans.
Il doit avoir une morale, sûrement. Il doit sûrement avoir une morale.
On le souhaite, mais en même temps, ce que je vois, ok, de la part du scientifique, parce que ça va y apporter aussi beaucoup de malheur, ok, c'est-à-dire que la créature, va aussi, à sa manière, mettre des meurtres, ça va aussi dégénérer. Fait que c'est sûr que tous les problèmes que ça va amener, le savant, ok, lui, il va se sentir responsable de ça. Fait que c'est sûr que lui, ça va peser. C'est pour ça que je dis que c'est quand même un gros roman de culpabilité. Puis c'est pour ça que je fais peut-être le lien avec Dieu aussi. C'est-à-dire que Dieu, il a créé l'homme, il l'a chassé du paradis, puis après ça, l'être humain, il fait le mal, entre guillemets. Ok, pensons à Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qu'il fait? Il l'éradique. Pensons à l'arche de Noé, qu'est-ce qu'il fait?
La pomme d'Adam.
C'est ça. Finalement, par les actions, que la créature va faire, que ce soit Frankenstein ou que ce soit l'être humain dans la ville, mais finalement, il y a une honte de la part du créateur et cette honte-là se transforme en colère pour vouloir le détruire. Et c'est un petit peu ça aussi que le savant va vouloir faire avec sa créature. Finalement, il y a une culpabilité qui pèse sur lui puis il veut l'éradier.
C'était pas déjà d'ailleurs une idée de Nietzsche qui disait que la religion catholique, c'est toujours justement la culpabilité, c'est toujours ça.
Oui, tout à fait. Ben, c'est avec la culpabilité aussi qu'on maintient les gens, c'est qu'on empêche de se passer, parce que la culpabilité, finalement, c'est quoi? C'est la raison qui nous bloque dans nos passions. D'une manière prudente, je peux dire, c'est le surmoi qu'on se crée, finalement, qui nous empêche finalement de satisfaire notre ça et d'être finalement satisfait, d'agir selon nos pulsions. Fait que ça, c'est un amant prudent, c'est notamment nietzschéen aussi. Puis je dirais que d'une manière nietzschéenne, que ce soit Dieu ou que ce soit finalement le docteur Frankenstein, les deux agissent à la manière du chameau selon Nietzsche. C'est-à-dire qu'ils se laissent, dans la métaphore du chameau, c'est parce que Nietzsche voit qu'il y a trois métaphores, il y a le chameau, il y a le lion, puis il y a l'enfant. La première métaphore, le chameau, où finalement l'individu porte lui le fardeau du devoir, de la responsabilité, de la morale, et puis c'est ça aussi qui fait qu'il rend coupable et qui l'empêche en effort d'agir selon ses pulsions. La force du lion aussi qu'on détruit ces morales-là, c'est la force du non finalement aussi qu'on détruit tous nos devoirs, mais on n'a pas encore nécessairement trouvé de direction où on va, mais on sait qu'est-ce qu'on veut pas. Et un coup qu'on sait qu'est-ce qu'on veut pas, on peut maintenant savoir qu'est-ce qu'on veut. D'où la force de l'enfant finalement, qui est comme un peu la force du créateur, ou un enfant. Ça vient avec l'idée mythique un peu que c'est pur, tout ça, c'est pas tout décorrompu, donc c'est purement créateur, donc ça revient un peu à ça. Il y a un petit côté quand même enfant dans le docteur Frankenstein, peut-être même dans Dieu aussi quand on leur acte de création, mais ils se sentent vite rattrapés aussi, et ils dégénèrent avec le chameau assez rapidement.
Je me demandais, est-ce que Mary Shelley, quand elle a écrit son roman, est-ce qu'elle avait ça dans l'esprit, est-ce qu'elle s'est inspirée de la Bible, est-ce qu'elle avait un message biblique à passer, ou c'était vraiment comme inconscient, voilà?
Oui, ben ok, j'ai pas fait de recherche particulièrement sur Mary Shelley, mais elle fait quand même beaucoup de références bibliques qui pourraient quand même me laisser l'interpréter, sauf que quand même aussi, je penserais pas qu'elle était à ce point-là pas athée, mais en tout cas parce que quand même la vision la vision que j'en fais, tu sais, aussi que je dis que Dieu puis le docteur, finalement, il agissent comme un chameau d'une manière nietzschéenne. Je veux dire, Mary Shelley n'a jamais connu Nietzsche aussi. Nietzsche a écrit bien longtemps après. Puis je veux dire, bon, ça c'est quand même une vision, c'est quand même plus personnel, mais sinon, cette comparaison-là du Dieu avec sa créature, tout ça, même elle l'écrit dans son livre. Fait que je dirais que oui, elle en est consciente et elle voit. Mais moi, ce que je dirais, c'est un lieu de référence. C'est-à-dire que la religion, tout le monde connaît, tout le monde sait quoi, fait que finalement, connaître comment la créature va se sentir par rapport à son créateur, on va faire un parallèle avec un lieu de référence que tout le monde connaît, qui est la Bible, et on va prendre l'histoire finalement de la création biblique. Et puis, c'est juste pour nous aider à plus sympathiser avec les personnages. Fait que, tu sais, il n'y a pas nécessairement de message chrétien. Peut-être juste en même temps, s'il y a une morale à mettre là-dedans, parce que c'est quand même, ça a quand même été, bon, on dit que c'est le premier roman de science-fiction. Si on pense à l'aide du docteur Moreau, si on pense à un paquet de films de science-fiction, même à l'extrême, à Matrix aujourd'hui, on crée des machines,
ben ouais.
Ça nous surpasse. C'est un gros copier-coller de Frankenstein où finalement on crée quelque chose de plus puissant. Puis, puis finalement, on devient en lutte contre cette chose-là. Peut-être une vision, quelqu'un qui serait croyant pourrait peut-être voir, quelqu'un qui serait croyant, puis qui regarde notre époque aujourd'hui aussi, qu'on devient de plus en plus athée, mais finalement, il se dirait finalement, Dieu a créé l'homme, et l'homme finalement détruit Dieu, puis finalement, ça en revient un peu à ça. Puis ce qu'il voit, quand tu vois ça, puis il voit la catastrophe là-dedans, c'est que normalement, Dieu, ok, il donne quand même une lignée pour comment se comporter. Finalement, les humains entre eux, savent comment se comporter. Si on crée quelque chose, mais il faut que cette chose-là soit nécessairement assujettie à nous, parce que nous, on sait comment se comporter. Puis là, je mets tout ça en guillemets. Mais tandis que si jamais cette chose-là devient plus forte, finalement, elle devient un nouveau régime. Donc, ça nous force à modifier notre comportement. Fait que finalement, ce que j'ai à dire par rapport peut-être à l'éthique, à comment est-ce qu'on doit se comporter, mais finalement, on se compose sur ce qui est le plus fort. Puis si finalement la créature devient plus forte, ben puis on ne sait pas vers ça que notre nature est dirigée. Fait que c'est sûr qu'on va lutter contre ça. Fait que finalement, ben à la fin, les deux meurent. Fait que... Je pense que j'avais été le compter, mais c'est ça.
Ben, j'ai déjà lu.
OK.
Je te remercie beaucoup, Steve Simard, pour la chronique éthique. À la prochaine!
À la prochaine!